Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, où sont passés les combattants de l'État islamique ? Les derniers hectomètres carrés sont toujours les plus difficiles à reconquérir. Dans l'est de la Syrie, le hameau de Baghouz est devenu ces derniers jours le théâtre d'une bataille décisive, celle qui doit permettre aux forces démocratiques syriennes et à la coalition internationale menée par les États-Unis de mettre un terme au projet territorial de l'État islamique. L'issue ne fait aucun doute. Le califat, proclamé en juin 2014 à Mossoul, en Irak, va disparaître. Privé de territoire à administrer, l'État islamique, qui mérite de moins en moins son nom, est-il pour autant entièrement désossé ? Si nombre de ses combattants ont été tués en Irak et en Syrie, si d'autres sont emprisonnés, il faut encore compter avec tous ceux et toutes celles qui ont réussi à se disperser. Dans un rapport publié récemment, l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, estime qu'il y aurait aujourd'hui entre 100 000 et 230 000 combattants djihadistes dans le monde, soit le niveau le plus élevé depuis 40 ans. Alors tous n'appartiennent pas à l'État islamique, mais cette estimation, à prendre évidemment avec prudence, témoigne d'une capacité du terrorisme islamiste à faire preuve de résilience, à se régénérer, et donc à faire peser une menace persistante en tout point du globe. Alors où sont passés les combattants de l'État islamique? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Gérard Chalian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés. Vous faites des séjours réguliers du côté de l'Irak et de la Syrie. Je citerai parmi vos nombreuses publications votre histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh, publiée chez Fayard. C'était en 2015. Pour discuter avec vous, Edith Bouvier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter, reporter de guerre. Vous travaillez pour différents titres. Votre dernier ouvrage a été publié chez Plon l'an dernier, Un parfum de djihad, je me souviens plus le nom de votre co-auteur.
Céline Martelet.
Et le sous-titre, qui sont ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste? Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence, Myriam Benrad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Votre dernière publication, au Cavalier Bleu, c'était en 2018, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie. Alors intéressons-nous pour commencer à cette actualité, à ce hameau de Baghouz dans l'est de la Syrie. La dernière dépêche un petit peu consistante de l'agence France Presse fait état de reddition aujourd'hui encore de dizaines de civils et de combattants. Il en reste quand même un certain nombre, alors quelques dizaines, quelques centaines, on ne sait pas très bien, qui sont retranchés avec des familles. Est-ce que la seule alternative, Gérard Chalian, aujourd'hui pour ces combattants, c'est soit se rendre, soit mourir?
En effet, voilà, c'est très simple. Ou ils se rendent, et en principe, ils auront intérêt à le faire, ou alors ils meurent. Bon, et dans l'ensemble, il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils se sont remarquablement battus. Alors, d'une façon générale, c'est une technique qui fait qu'ils sont vaincus, mais en fin de compte, moralement, c'est-à-dire pour la propagande, ils sont vainqueurs. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils ont à savoir mourir.
C'est-à-dire que plus longtemps ils vont démontrer leur capacité à résister, plus ça pourra servir pour la suite à la cause, qu'on avait peut-être d'ailleurs observé sur d'autres terrains de combat. Je pense par exemple à Mossoul, hein, où il a fallu quand même un certain temps pour les troupes de la coalition internationale pour reconquérir cette ville qui, en revanche, était très vite tombée aux mains de l'État islamique quand ils avaient cherché à la conquérir.
En effet. En tout cas, ça sert leur propagande. Il faut tenir et effectivement, ça va permettre par la suite d'avoir des recrues.
Edith Bouvier, sur cette capacité, cette volonté de tenir le plus longtemps possible pour montrer que l'organisation, bien que considérablement affaiblie, en tout cas sur le plan territorial, elle a quand même une capacité, disons, ou en tout cas un message à envoyer à ceux qui pourraient être tentés par la suite de la rejoindre.
Un message, et puis concrètement, il y en a plusieurs qui ont réussi à s'enfuir, soit en Irak et qui ont rejoint les cellules dormantes djihadistes qui étaient déjà présentes dans plusieurs villes, soit dans la poche d'Idlib, qui reste au nord-ouest de la Syrie, avec sous contrôle de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, anciennement Al-Qaïda en Syrie, et qui continuent à travailler leur propagande là. On a même un groupe de francophones là-bas. Le groupe du Niçois Omar Homsen, qui vient d'être lâché hier de la prison militaire de HTS, et qui a repris ses fonctions de chef militaire complètement libre. C'est ça qui est terrible à dire, à la frontière turco-syrienne, avec une centaine, un peu moins peut-être, de francophones belges et français, femmes et enfants qui vivent presque tranquillement.
Myriam Benrad, cette détermination à conserver un petit bout de territoire dans l'est de la Syrie, territoire qui n'a aucune valeur stratégique aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ou au contraire qui fait partie justement de, si ce n'est de l'ADN, mais enfin en tout cas de la stratégie, de la façon de se comporter des combattants de l'État islamique?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments sur cette question. Je ne crois pas, en tout cas concernant les derniers réduits du groupe en Syrie, qu'il s'agisse véritablement de maintenir le territoire, parce que les propagandistes en chef de l'État islamique ont déjà admis, il y a plusieurs mois, que le projet territorial, le proto-État, était finalement en défaut et avait pour l'heure échoué. Maintenant, sur la détermination, c'est un point important, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories, plusieurs rôles au sein de l'État islamique. On a toujours des combattants qui font partie, des unités d'élite du mouvement, qui sont toujours à la manœuvre, qui, on en parle moins, on est complètement concentré actuellement sur Barouz, mais en réalité, on a un certain nombre d'attentats qui ont lieu un peu partout en Syrie, des assassinats. C'est plus le cas aujourd'hui en Irak, où le groupe est revenu à l'insurrection. Et ce que nous présentons comme une victoire est vécu par eux comme une épreuve temporaire. Donc on est, du côté de la coalition, on est dans une temporalité de l'urgence, là où les djihadistes sont dans une temporalité de l'usure. C'est-à-dire qu'ils sont déjà revenus à la guérilla et à cette idée de que le projet idéologique est mis en défaut et que et qu'ils doivent donc pour l'heure user tout ce qui peut s'apparenter à une stabilisation des territoires libérés, les armées, toutes les forces qui se sont opposées à eux.
Et en même temps, on peut comprendre que symbole, finalement, pour symbole, du côté des forces démocratiques syriennes, qui est cette coalition arabo-kurde, et puis du côté de la coalition internationale qui est menée par les États-Unis, avec les Européens et notamment la France, il y a aussi la nécessité, à un moment donné, de dire, ben voilà, il y avait ce projet territorial qui était celui du califat. Ce projet, aujourd'hui, il n'existe plus. Ce qui ne veut pas forcément dire, bien sûr, et c'est l'objet de la discussion de ce soir, que l'État islamique a été vaincu, Gérard Chalian.
Oui, militairement, il a été vaincu. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, territorialiser, c'était un merveilleux coup de publicité. La publicité, M. Baghdadi a su la faire. Premièrement, il a pratiqué une politique de la terreur et de l'horreur, un peu à la façon des Mongols, c'est-à-dire que sa façon de procéder était tellement terrorisante, puisqu'ils avaient un appareil qui montrait exactement ce qu'on pouvait faire, que avant même qu'ils arrivent, ils paralysaient l'adversaire lorsque cet adversaire n'était pas prêt vraiment à se battre en mettant le prix. Bon, ça a payé. Deuxièmement, effectivement, il s'est dit, voilà, je territorialise, la frontière n'existe plus entre l'Irak et la Syrie, bon, elle existe toujours, en tout cas, lui, il l'avait dissolue. Et puis ensuite, il a dit, je territorialise, alors tout de suite, on a dit, il a un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Oui, on a oublié de dire que son territoire grand comme la Grande-Bretagne est complètement désertique, et que à part Raqqa et puis à la fin Mossoul, il contrôlait pratiquement personne. Hein. C'est-à-dire que c'était un grand vide. Il a fait deux ou trois incursions jusqu'à Palmyre, qui est au milieu de nulle part aussi. Bon, ça, c'est important.
Ceci mais quand dit, vous dites, Gérard Chalian, que c'était un coup marketing, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément l'idée de pérenniser ce territoire, que c'était plutôt justement pour peut-être ce, comment dire, opérer davantage de recrutement et peut-être dans le cadre aussi d'une compétition avec d'autres groupes terroristes islamistes apparaître comme vraiment celui qui comptait véritablement, mais qui avait déjà l'idée que un jour ce territoire finirait par disparaître, en tout cas que c'était quelque chose de provisoire.
Non, c'est un coup de bluff parce que bon, prenez par exemple les Vietnamiens, les gens sérieux, hein, ou les Chinois, ils n'ont jamais prétendu territorialiser quoi que ce soit. C'est-à-dire que les Américains, par exemple, ils contrôlaient pendant la journée. La France contrôlait également le Vietnam pendant la journée. Puis le soir, le contrôle, il était entre les mains du Viet Cong ou du Viet Minh, et ils contrôlaient la population. Ce qui compte, c'est contrôler la population, c'est pas contrôler le territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à contrôler le territoire? C'est parce que votre adversaire, il est plus fort que vous. C'est-à-dire qu'il peut vous disputer le contrôle du territoire. Il a des tanks, il a des avions. Et s'il a des gens qui sont prêts à combattre au sol, ce que nous appelons, nous, des forces de substitution, ben vous ne pouvez pas tenir. C'est ce qui leur est arrivé. Ceci dit, il y a eu un moment, un coup extraordinaire, c'est « Ah, la victoire est au bout du fusil ». Il y a eu 20 000, 30 000, je ne sais pas combien, enfin des milliers qui se sont pointés pour les renforcer.
Est-ce que vous partagez, Myriam Benrad et Edith Bouvier, cette idée d'un coup de bluff? Myriam Benrad, je commence par vous.
Non, je suis pas tout à fait d'accord de ce point de vue, parce que je pense que la question de la gouvernance et du contrôle, il y a eu un vrai projet totalitaire qui s'est développé. Donc c'était quand même cette question de la gouvernance, du contrôle du territoire a été, à mon avis, un point très important, y compris d'ailleurs concernant la popularité du mouvement. Et alors bon, de ce point de vue, on peut considérer que 2014 a été une opportunité, mais une opportunité qu'ils ont quand même beaucoup travaillé en amont, entre guillemets, parce que si on prend le cas de l'Irak, bon, ça s'est étendu à la Syrie, mais en Irak, en réalité, entre le premier retrait américain de 2011 et cette prise de contrôle de Mossoul en 2014, il y a eu 3 ans de pourrissement qui leur a permis, dans certains territoires sunnites, de vendre leur projet idéologique. Et beaucoup des populations ont quand même, il faut le rappeler, adhéré à ce projet parce qu'on leur promettait justement une gouvernance, la lutte contre la corruption, des réformes, la remise en état des infrastructures, des routes, tout ce que le gouvernement central avait laissé en déshérence. C'est aussi valable pour la Syrie parce que bon, les rapports entre une province comme Deir ez-Zor et le régime de Damas, bien avant en fait l'arrivée des djihadistes, était très précaire. Donc je crois qu'il y a eu une vraie volonté du point de vue de la gouvernance, qui d'ailleurs les a distingués aussi d'autres mouvements comme Al-Qaïda, qui maintenait une projection, je dirais, plus transnationale, plus globale du djihad.
Edith Bouvier, vous qui, avec Cécile Martelet, avez beaucoup échangé avec des femmes qui sont parties justement combattre aux côtés de l'État islamique, est-ce qu'il y avait justement cette idée de participer à un projet qui était un projet pour durer dans un État qui était fait pour durer, en tout cas chez ces personnes-là?
Complètement, et c'est bien pour ça que, alors que jusque-là, aucun mouvement djihadiste n'avait attiré autant d'étrangers, on a au moins 40 000 étrangers qui auraient rejoint l'État islamique, 40 000 non-irakiens syriens, dont 1700 Français, hommes et femmes, avec leurs enfants, qui ont choisi de rejoindre ce pays rêvé, comme il le dépeignait, et qui même en 2018, après la chute de Raqqa, après la chute de Deir ez-Zor, alors que l'État islamique ne cesse de perdre du terrain, je le disais tout à l'heure, presque 20 Français ont tenté de rejoindre la Syrie. Ce rêve qu'ils se sont construit, cette espèce de rêve mortifère, continue de les hanter.
Mais quand on voit que ce rêve commence à se déliter du fait de ces défaites militaires sur le terrain, est-ce que ça n'a quand même pas un effet sur un certain nombre de ces combattants de se dire, bah voilà, une forme de découragement et de fait de démobilisation même, Edith Bouvier?
De démobilisation, mais pour un prochain rêve. Le prochain qui arrive avec l'idée du siècle pour la suite, ils le rejoindront. C'est tout le danger, c'est tout le problème avec ces revenants, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler dessus et savoir ce qu'il en est de leur rattachement aux théories djihadistes, parce que pour beaucoup, ils ne sont pas vraiment revenus. Ils sont revenus de cette idée-là, de ce projet-là qui n'a pas fonctionné, mais le prochain, pourquoi pas?
Ces militants, ces combattants, ceux qui sont toujours en vie et qui sont en liberté, ils sont toujours disponibles pour un prochain rêve, comme le disait Edith Bouvier, Gérard Chalian?
La plupart, oui. La plupart, ils sont engagés. Bon, bien sûr, c'est un creux pour eux. Enfin, si on se met à leur place, c'est quand même une sévère déconfiture. Mais en même temps, l'espoir continue, l'idéologie n'est pas morte, ça se bombarde pas, une idéologie, elle continue d'attirer du monde, il y a toujours des volontaires pour ce genre d'aventure, et ça va continuer. Ceci dit, il faut quand même bien marquer que, un, ils ont été militairement battus sur un projet qu'ils ont véritablement monté de façon intelligente et qu'ils ont très bien vendu. Et deuxièmement, il faut aussi dire que du côté des Occidentaux, on a été médiocre. C'est-à-dire que ces gens-là se sont déplacés alors qu'on a des trucs d'observation fantastiques dans une zone complètement désertique. On les a pas frappés. On aurait pu beaucoup mieux faire. Je vois pas pourquoi on s'est gêné de les écraser quand ils sont partis, par exemple, de la Syrie en direction de Mossoul. Bon, c'était connu, il y avait tout ce qu'il fallait. Les Américains ont un système de détection aérien extraordinaire. Bon, il faut bombarder dans ces moments-là.
Si vous faites ce constat, Gérard Chalian, j'imagine que vous avez réfléchi à des hypothèses, à des réponses. C'est-à-dire, pour quelles raisons ça n'a pas été fait?
Ce que je remarque, moi, c'est que les Russes, eux, enfin, c'est ce que voulaient les Russes, moi, c'est pas mon problème. Mais les Russes, quand ils frappent, ils frappent. Bon, c'est-à-dire que ils ont été d'une extrême efficacité dans le cadre de la politique qu'ils ont suivie. Nous, on a été coup-ci, coup-ça.
Coup-ci, coup-ça, un manque d'efficacité de la part des Occidentaux et de la coalition menée par les États-Unis, Myriam Benrad, notamment contre l'État islamique.
Je ne sais pas si on peut parler de manque d'efficacité, parce qu'il faut quand même dire que sans le soutien aérien des États-Unis, parce que les États-Unis, ce qu'on appelle coalition occidentale, soyons très clairs, la France a contribué, d'autres pays aussi, mais enfin le plus gros des frappes et du soutien militaire a été assuré par les États-Unis. Sans ce soutien, il faut bien être clair, les forces irakiennes, syriennes, et plus particulièrement les forces démocratiques syriennes, n'auraient pas été en mesure de reprendre le territoire face à des combattants c'est ce qu'a très bien souligné Gérard Chalian, des combattants qui étaient ultra déterminés, qui étaient prêts à aller à la mort, qui sont d'ailleurs toujours prêts à aller à la mort, faut quand même le dire. Donc, il faut faire bien là le distinguo. Les États-Unis sont intervenus en Syrie contre l'État islamique. Ils n'ont jamais véritablement eu de volonté de peser dans l'équation syrienne, contrairement à la Russie qui, pour des intérêts, je dirais, naturels, puisqu'il y a une proximité géographique qui n'est pas celle des États-Unis avec la Syrie. Les Russes voyaient la déstabilisation syrienne comme étant un danger, une menace envers leur propre sécurité. Donc, soulignons par ailleurs qu'il y avait beaucoup de combattants russes dans les rangs de l'État islamique, il y a beaucoup de combattants du Caucase dans les factions djihadistes qui manœuvrent en Syrie. Donc, il y a des raisons, je dirais, à l'engagement russe et au fait que les Russes se sont dotés d'une vraie stratégie. Les Américains n'ont pas véritablement eu de stratégie tout au long de ce conflit.
Alors justement, sur la question de la stratégie, revenons à celle qui est aujourd'hui adoptée par l'État islamique. L'État islamique n'a pas disparu. Ce que dit un chercheur du CSIS, Center for Strategic and International Studies, j'ai un accent anglais toujours aussi mauvais, il s'appelle Seth Jones, il s'exprimait il y a quelques jours de cela dans le journal du dimanche. Et à propos donc de l'État islamique, il dit « Ils ont fait ce que doit faire toute armée face à une opposition mieux équipée. Tu te disperses, tu n'opères plus en formation importante, tu passes sous terre, tu construis ton réseau clandestin, tu commets des assassinats ciblés, tu emploies des explosifs improvisés et tu attends que l'occasion se présente. » Est-ce que ça peut vous paraître un bon résumé de la façon dont opèrent aujourd'hui les combattants de l'État islamique qui ont réussi à se disperser, Edith Bouvier?
C'est un excellent résumé, mais il faut revenir aussi au départ, à la naissance de cet État islamique et au fait que ce n'est pas pour rien que l'État islamique naît à la frontière irako-syrienne. Ce n'est pas pour rien qu'en novembre 2011, Bachar el-Assad ouvre les portes des prisons de Sednaya, libérant des milliers d'islamistes qu'il a enfermés là et qui ont bien pu travailler sur leur projet de proto-État. Ce n'est pas pour rien qu'on les laisse traverser, comme le disait Gérard Chalian, le pays pour aller détruire Palmyre. Et que personne ne fait rien jusque-là. C'est parce qu'on avait besoin de ces images, c'est parce qu'on avait besoin de ce monstre que Bachar el-Assad et ses alliés russes ont créé pour pouvoir asseoir et détruire l'entièreté de l'opposition syrienne, le rêve de démocratie qu'ont eu quelques fous idéalistes syriens et qu'on a massacré depuis 8 ans aujourd'hui.
Mais j'ai l'impression d'entendre le discours qu'on pouvait entendre il y a quelques années quand on évoquait, par exemple, la naissance d'Al-Qaïda. C'est-à-dire là aussi, un monstre qui aurait été créé par les Occidentaux. Vous qui avez écrit cette histoire du terrorisme, Gérard Chalian, est-ce que c'est comme ça que ça se passe, si ce n'est à chaque fois, mais enfin, en tout cas, parfois, et en l'occurrence avec ces deux groupes?
Non, c'est pas aussi caricatural que ça. Mais enfin, effectivement, il y a une politique du pire qui est menée par certains, c'est sûr. Bachar, il a fait ce qu'il fallait pour que effectivement il ait une politique qui fonctionne pour montrer qu'en définitive la stabilité c'était lui, voilà. Bon, ça il a réussi son coup. Mais enfin, faut pas non plus, comment dirais-je, toujours transformer ça comme un truc qui se fait, comment dirais-je, dans l'ombre. Il y a aussi des choses beaucoup plus évidentes qui se sont passées dans, par exemple, la formation d'Al-Qaïda, etc. Voilà.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Où sont passés les combattants de l'État islamique? On en discute ce soir en compagnie du géopolitologue Gérard Chalian, de la journaliste Edith Bouvier et de la politologue Myriam Benrad. Où sont passés les combattants de l'État islamique qui se sont donc en partie dispersés pour ceux qui ont pu le faire, combattants et combattantes et militants en Irak et en Syrie, et peut-être plus largement, on parle de certaines antennes en Afghanistan, Myriam Benrad, en Afrique, toujours en Libye. Ça reste quand même une organisation qui dispose de relais importants dans un certain nombre de pays du monde.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a, il y a un problème avec cette focalisation extrême sur le foyer irako-syrien. Bon, c'est normal parce que c'est là qu'ils ont établi leur proto-État. Mais en réalité, depuis 2014 et la déclaration donc du dit califat par al-Baghdadi, un certain nombre de djihadistes, donc de factions djihadistes existantes, plus ou moins anciennes, ont prêté allégeance, donc inscrivent leur combat, leur lutte sous la bannière de ce projet idéologique qui perdure, qui n'est pas mort. Militairement, ils sont défaits en Irak et en Syrie, certes, mais idéologiquement, ils ne le sont pas. Et en effet, quand on s'intéresse à la situation dans les pays arabes, qu'il s'agisse de la Libye, on peut mentionner l'Égypte aussi, où on a une forte activité dans le Sinaï, la déstabilisation dans le Golfe, leur présence aussi au Yémen, et puis le foyer afghan qui est en train de revenir à l'avant-plan, l'Afrique, l'Asie, on a une contamination globale. Donc c'est bien pour cela qu'il faut se méfier, à mon avis, de l'idée de victoire, parce qu'ils vont chercher d'autres opportunités, c'est déjà d'ailleurs le cas, pour essayer précisément de relancer ce projet et d'exploiter les espaces, toutes les failles dont ils pourront disposer pour réitérer cette entreprise de califat et cette implantation territoriale. Je pense qu'il faut vraiment là maintenant prendre la mesure de la durabilité de la menace.
Le califat, il avait quand même un avantage, Gérard Chalian, c'est-à-dire quand vous avez une administration qui peut par exemple prélever un impôt, on peut financer son organisation. Est-ce que aujourd'hui, l'État islamique et ses différents mouvements djihadistes islamistes ont la possibilité de se financer aussi facilement qu'auparavant? En tout cas, est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui complique leur pérennité?
Vous avez raison de soulever le problème. C'est-à-dire qu'ils étaient admirablement installés. Il y avait un trafic en direction de la Turquie, etc., etc. Ça marchait très bien. Maintenant, il va falloir qu'ils choisissent, et je suis sûr qu'ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on pourrait choisir, parce que c'est pas évident. Par exemple, personne ne parle du Pakistan, personne ne parle du Bangladesh, où il y a une montée considérable de l'islamisme. Bon, on verra là où ils vont attaquer, mais effectivement, ça va redemander des moyens. Il faut réussir à faire de l'argent, il faut réussir à trouver des réseaux. C'est toute une réorganisation qui va falloir le faire. Et là, pour l'instant, comme disait Seth Jones, que je connais bien d'ailleurs, on s'est connus en Afghanistan, c'est un monsieur qui suit ce genre de problème de près. Bon, ils vont effectivement disperser, frapper pour rappeler leur existence, de la même façon que ils ont rappelé leur existence au moment où ils s'effondraient en Irak, jusque dans l'île de Mindanao, où ils ont eu une prise de pouvoir pendant quelque temps. Bon, ils vont montrer qu'ils existent. Mais enfin, il faut qu'ils choisissent un jour un terrain plus fertile. On va voir lequel.
On peut d'ailleurs imaginer, dites Bouvier, que cette nécessité d'une réorganisation, elle ne les prend pas totalement au dépourvu. C'est-à-dire depuis quand même 2-3 ans, il y a une série de défaites militaires enregistrées par l'État islamique. Et donc il y a forcément une réflexion sur la façon de se redéployer et de redéployer les forces combattantes.
Et de nombreux chefs ont déjà dû aller s'étendre un peu plus loin. La frontière irako-syrienne est poreuse et de là... ils ont pu s'étendre. C'est, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'attentats suicides ces derniers temps. Ils ont déjà travaillé sur l'après.
Ces attentats suicides, d'ailleurs, dont on parle assez peu, c'est-à-dire qu'on a aussi l'impression que, en Europe, parce que la menace terroriste a baissé quand même d'un cran, enfin, en tout cas, il y a moins d'attentats, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, hein, bien sûr, on l'a vu encore ces derniers mois, mais du coup, ça fausse aussi peut-être l'appréciation qu'on peut avoir de ce que représente encore aujourd'hui ce groupe État islamique, Edith Bouvier.
C'est extrêmement angoissant de se dire que tous les politiques affichent un grand sourire en disant c'est fini, l'État islamique est vaincu. Et non, il y a encore régulièrement des attaques à Raqqa, à Membej, en Syrie, en Irak. Et que pour les forces arabo-kurdes, c'est compliqué de tenir ce territoire parce qu'il y a ces cellules dormantes qui sont présentes partout. On en parle un petit peu en Libye, en Irak, en Syrie, c'est compliqué.
Est-ce que ça veut dire aussi que les mots qui vont être choisis, notamment par Donald Trump, dont on annonce une déclaration imminente une fois que les dernières poches de résistance auront été levées. Est-ce que les mots qui vont être choisis vont être importants? Myriam Benrad, il faut se souvenir, en 2003, George W. Bush, qui, sur un porte-avions américain, annonce que le travail a été fait, tout en se préservant bien de prononcer le mot de victoire. C'est ce qui avait été noté à l'époque. Est-ce que Donald Trump aurait aussi intérêt à ne pas prononcer le mot de victoire?
Oui, alors c'est intéressant le parallèle avec George Bush et l'intervention de 2003, parce que entre-temps, l'armée américaine a été sonnée par une insurrection armée extrêmement violente qui a donné lieu d'ailleurs à toute une littérature passionnante sur cette notion de victoire. Est-ce qu'on peut parler de victoire quand on combat une insurrection de long terme? Alors ça pose aussi la question, je fais juste une petite parenthèse, du retour, de ce qu'on appelle le retour à la clandestinité, à la guérilla, etc. C'est pas véritablement un retour, parce que si on prend le temps long de l'existence de l'État islamique, c'est un mouvement qui a vécu à travers la guérilla et à travers cette insurrection. Le proto-État qui a été établi entre 2014, je dirais, et fin 2015, début 2016 a été une parenthèse. Ils se sont essayés à la gouvernance, au contrôle d'un territoire, mais fondamentalement c'est un mouvement insurgé. Donc ils reviennent à rien, ça fait partie de leur ADN, et c'est bien pour cela qu'ils restent extrêmement dangereux. Maintenant, concernant Trump, Trump veut se débarrasser, je pense, de la question syrienne. Finalement, il n'y a pas de discontinuité avec l'administration Obama. Il essaie juste d'accélérer les choses avec ce retrait et cette volonté de se désengager. Mais encore une fois, les États-Unis, au-delà de la lutte contre l'État islamique, n'ont jamais fondamentalement, à mon avis, été impliqués outre mesure sur la question syrienne.
Gérard Chalian.
Oui, il parle beaucoup, Monsieur Trump, mais il ne fait pas toujours ce qu'il dit. Il devait se retirer il y a de ça 2 ans. D'Afghanistan. Bon, maintenant, c'est remis 2 ans plus tard.
En ce qui concerne... Il négocie quand même avec les talibans en ce moment.
Oui, bah, c'est logique. Les Russes aident les talibans depuis longtemps. C'est un truc compliqué, les talibans. Le problème, c'est est-ce que les talibans, c'est vraiment national, ou est-ce qu'ils vont se transformer en une espèce de machin transnational qui menace, etc. etc. Bon, ensuite... S'il retire les 2000 hommes qu'il a, ce qui, entre parenthèses, lui coûte pas grand-chose, hein. Il a 2000 hommes. Eh bien, il laisse la porte ouverte à quoi? Il laisse la porte ouverte à la Turquie, qui va rentrer pour écraser les Kurdes. C'est ce que, logiquement, les Turcs devraient faire. C'est dans leur, dans leur agenda. Et à ce moment-là, on va vers une complication supplémentaire de la situation. Il n'aura rien arrangé par son retrait, au contraire. Donc, il n'est pas certain qu'il se presse de se retirer. Ce qu'il veut, c'est faire plaisir à son électorat. Il faut dire, voilà, on s'occupe que de nous. C'est ce qui compte, c'est nos intérêts nationaux, plutôt la maison, etc.
S'il se retire, est-ce qu'il laisse aussi la porte ouverte, Edith Bouvier, à une capacité de recomposition pour l'État islamique en Syrie? En tout cas, est-ce que c'est une crainte qui peut exister de dire, ben voilà, il n'y a plus les Américains, donc il y a peut-être une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à nouveau dans ce pays?
Il n'y aura surtout plus la force arabo-kurde pour essayer de tenir la frontière, pour tenir leur territoire et continuer ce combat, effectivement. L'agenda des Turcs, ce serait d'avoir une zone tampon tout au nord de la Syrie. D'abord, les Turcs ne sont pas chez eux en Syrie, donc on a vraiment un interventionnisme plus du côté turc. Et du coup... Quel est l'intérêt de chacun à avoir les djihadistes? Peut-être que les Turcs auraient un intérêt à voir ces djihadistes pour pouvoir continuer à rentrer plus en avant. Est-ce que le régime syrien qui va prendre plus de terrain, parce que petit à petit les Kurdes vont se faire avoir par tout le monde et vont devoir se retirer, qui va avoir un intérêt à ça ?
Gérard Chalian.
C'est une vraie question.
En somme, le retrait des forces américaines de Syrie pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est que, effectivement, aujourd'hui, l'Iran est sur la défensive, alors que c'est au contraire la Turquie qui est dans l'offensive et qui a déjà une présence à Afrin, qui a déjà une présence dans ce qu'on appelle Idlib, à travers des types d'Al-Qaïda et autres, et qui, en plus, voudrait écraser au maximum les Kurdes qui ont été extrêmement utiles jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon, donc, la politique de M. Trump, ça pose problème. D'ailleurs, son état-major le lui a dit, que ce soit Mattis ou bien McMaster, etc. Vous lui avez dit, M. le Président... ça résout rien, votre retrait. Voilà.
Je voudrais, Myriam Benrad, qu'on revienne un instant sur la détermination des militants de l'État islamique. Il me semble que vous faites un distinguo entre ceux qui peuvent être découragés, désillusionnés par ce qui s'est passé, par rapport au projet qui était présenté, projet de califat, et puis une forme de revanchisme djihadiste d'autre part, qui serait peut-être plus d'ailleurs un revanchisme qui existerait du coup en dehors des zones de combat, et par exemple en Europe.
Oui, alors le revanchisme, la vengeance, c'est consubstantiel au discours djihadiste. Toute la propagande est une propagande vengeresse, donc à chaque opération qui les vise, à chaque, s'ils considèrent comme des attaques, hein, puisqu'il faut bien comprendre aussi le fond de cette propagande, ils considèrent qu'ils sont attaqués, chaque attentat, chaque assassinat est présenté comme une opération vengeresse. Et ça va rester. Donc c'est bien pour cela que il y a certes démobilisation. Tout à l'heure, vous avez discuté, c'était très intéressant, de la question de la démobilisation. La démobilisation, le désengagement, ne signifie pas la déradicalisation. Ce n'est pas abandonner ses convictions. Donc il est vrai qu'un certain nombre aujourd'hui se désengagent, c'est-à-dire qu'ils décident d'abandonner la violence armée, mais pour autant ils conservent des convictions, des croyances très fortes, et ça les rend vulnérables à ce discours qui, lui, dans la durée, va continuer de les cibler. Va certainement parvenir à recruter de nouvelles cibles. Et peut-être une chose concernant la Syrie et l'Irak, il y a tout un vivier de jeunes désespérés qui ont tout perdu, qui ont été témoins de ces guerres absolument atroces, qui, du côté sunnite, va rester aussi potentiellement une cible pour ces groupes djihadistes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'État islamique. Les jeunes gens qui ont combattu dans les rangs de cette organisation étaient des idéalistes qui recherchaient quelque part, même dans l'ultra violence, une alternative à ce qui avait été finalement un état de déshérence pendant des années et des années.
Démobilisation ne veut pas dire déradicalisation. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Edith Bouvier et Gérard Chalian. Edith Bouvier, au regard aussi des discussions que vous avez pu mener avec ces femmes, ces Françaises, qui sont parties rejoindre les rangs de l'État islamique.
Il y a autant de personnes qui sont parties en Syrie qu'il y a de raisons de partir, et il y aura autant de raisons de sortir ou pas de l'idéologie. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que l'État français a choisi la méthode la moins coûteuse. On refuse de mettre de l'argent dans la déradicalisation, dans l'accompagnement de ces personnes, alors que c'est la seule solution pour se protéger du problème d'après. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de ces gens de retour.
À condition d'être convaincu que la déradicalisation puisse marcher.
Elle ne marchera pas sur tout le monde, mais en tout cas, il faut essayer. On a des juges qui sont capables de juger ces gens, de les condamner, des peines de plus en plus fermes, contrairement à ce que certains veulent entendre, c'est au moins 10 ans, et depuis 2016, on criminalise ces gens de retour, donc c'est possiblement des peines aux assises de 30 ans, si on a heureusement des informations là-dessus. Et ensuite, il y a des accompagnements, il y a des choses qui sont possibles, il y a des prisons qui sont de plus en plus, il y a des systèmes qui sont de plus en plus réfléchis pour les accompagner, pour permettre d'isoler ces personnes-là des autres détenus en prison et de ne pas effectivement avoir le souci de la contagion de l'islamisme en prison. Mais en tout cas, il faut récupérer nos détenus, nos ressortissants, travailler dessus et éviter qu'on ait la menace dans 10 ans, qui ressurgissent, et surtout travailler sur les enfants. Il y a aujourd'hui dans les camps de déplacés au Kurdistan syrien une grande majorité d'enfants de moins de 5 ans. Il faut travailler sur ces enfants, il faut les accompagner, il faut leur restituer une histoire. Si on ne veut pas que dans 15 ans, ils nous explosent.
Gérard Chalian, vous croyez suffisamment aux capacités de la déradicalisation, au moins sur certains individus, pour que cela justifie que l'on fasse en sorte qu'ils reviennent pour être jugés en France plutôt que là où ils ont été capturés?
Et moi, à titre personnel, je ne crois absolument pas à la déradicalisation. Bon, le type de déradicalisé que j'ai rencontré, c'est le genre ayant passé 6 ans à Guantanamo, à la sortie déradicalisé par l'Arabie Saoudite, et quand il était libre, il est allé fonder Al-Qaïda au Yémen. Voilà, il était déradicalisé.
On vous dira peut-être que c'est un contre-exemple, mais qu'on pourrait vous en opposer d'autres.
Non, écoutez, imaginez que vous soyez catholique et croyant, et moi athée. Est-ce que je peux vous convaincre que vous devriez être athée? Je ne peux pas vous convaincre. Vous ne pouvez pas me convaincre que Dieu existe. Comment ça déradicaliser? Ça ne veut rien dire.
Vous pouvez peut-être me convaincre que de ne pas, au nom de cette croyance, prendre les armes, par exemple, non?
Oui, enfin...
Il faut au moins avoir le doute aujourd'hui. Oui. Et leur redonner le doute.
Oui, enfin, écoutez, on peut toujours tenter le coup, mais enfin, moi, je n'y crois pas. La seule déradicalisation possible, c'est 20 ans après, si le type a survécu et qu'il se penche sur son passé en disant « Tiens, j'étais con ». Voilà, c'est tout.
Mais là, on est quand même dans une impasse, c'est-à-dire aujourd'hui, on a donc les forces démocratiques syriennes qui ont un certain nombre de combattants étrangers, notamment européens, qui disent « bah nous, on veut pas les garder ». Donald Trump, vous disiez qu'il parle beaucoup, qu'il tweet beaucoup, qu'il dit « bah voilà, les Européens, faut que vous les récupériez parce que sinon, on va être obligé de les libérer, de les lâcher dans la nature ». Bon, évidemment, c'est là aussi, c'est sans doute un énorme coup de bluff, mais c'est compliqué.
Enfin, est-ce qu'il fallait pas liquider les affaires pendant qu'on était sur place? Je lève la question, c'est tout. Simplement, revenir à la case départ, reconsidérer tout ça, je n'y crois pas. Voilà, c'est tout. C'est mon point de vue. Je peux pas vous convaincre,
ah ben, monsieur,
puisque,
voilà.
Puisque ce serait ça, déradicaliser. J'en ai vu à Singapour qui se donne beaucoup de mal pour déradicaliser, puis dans l'ensemble, je trouve que bon, c'est médiocre.
Votre point de vue à vous, Myriam Benrad, et ce sera la conclusion.
Bah, je sais pas si c'est impossible, c'est-à-dire qu'il va falloir très sérieusement réfléchir, enfin si on prend le cas de la France, il va falloir très sérieusement réfléchir au dispositif, y compris en milieu carcéral, puisque bon, ces personnes vont être judiciarisées, incarcérées, enfin celles qui sont revenues le sont déjà. Il y a la question du rapatriement d'un certain nombre d'entre eux. Bon, je pense que c'est une démarche très individuelle finalement aussi. Hein. Il est vrai qu'il faut une prise de conscience chez eux que le projet n'est pas un projet finalement, n'est pas ce qui leur a été promis. Et bon, il y a la notion, oui, d'erreur de jeunesse chez certains. C'est vrai, quand on écoute d'anciens djihadistes, certains repentis, certains vous parlent effectivement d'une erreur de jeunesse. Donc, bon, c'est un sujet très compliqué. Il n'y a pas un profil, il y en a tellement qu'il est difficile de savoir finalement où, dans quelle direction aller.
D'autant que pour mesurer la sincérité de la repentance, c'est pas évident non plus. Juste pour terminer, pour citer Jean-Luc Marais de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, interviewé c'est une tribune dans Le Monde. Il dit, de la part de ces repentis, l'invocation de la mère patrie ces derniers temps par un certain nombre de djihadistes ne repose pas toujours sur un amour sincère de cette patrie, mais plutôt sur l'utilisation pragmatique d'une possibilité légale pour échapper à la dureté d'une détention au Proche-Orient, voire à la mort. Voilà, le débat est ouvert, évidemment. On reviendra sur ces questions dans de prochaines émissions. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Edith Bouvier, Gérard Chalian et Myriam Benrad, d'avoir participé à cette discussion. Merci aux équipes de France Bleu à Aix en Provence pour avoir assuré le duplex. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Arnaud Laporte, c'est bientôt à vous pour la dispute.
Bientôt. Dans un peu plus de 3 minutes, nous parlerons de musique. Ce soir, dans la dispute musique classique, mais avec un opéra très contemporain, notamment au programme. La question du grain à moudre demain, Hervé Gardette.
On va s'intéresser aux négociations sur l'assurance chômage entre les syndicats et le MEDEF. Ça patine un peu. Assurance chômage du travail à tout prix, ce sera notre débat à 18h20 demain.
Parfait, on sera à l'écoute pour l'instant. Vous écoutez bien France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Fiona Mogadam.